Le bateau blanc par Howard Phillips Lovecraft. Je suis Basil Elton, le gardien du phare de North Point, que mon père et mon grand-père ont gardé avant moi. C'est un phare gris, s'élevant assez loin du rivage sur des rochers gluants qui se découvrent seulement à marée basse. Pendant un siècle, les nefs majestueuses des sept mers ont fièrement passé devant lui. À l'époque de mon grand-père, elles étaient fort nombreuses, mais du temps de mon père, elles l'étaient déjà beaucoup moins. À présent, elles sont si rares que je me sens parfois étrangement seul, comme si j'étais le dernier homme de la planète. Ces anciens navires aux voiles blanches arrivaient des côtes lointaines où brille le chaud soleil et où de douces odeurs flottent sur d'étranges jardins et des temples colorés. Les vieux capitaines venaient souvent voir mon grand-père pour lui parler de ces choses qu'il raconta à mon père et que mon père me racontait pendant des longues soirées d'automne quand le vent venu de l'est hurlait férocement. Et sur ces choses et sur beaucoup d'autres, j'ai lu des livres que les hommes m'ont donnés quand j'étais petit et plein de curiosité. Mais il y a bien plus magnifique encore que la science des hommes âgés et celle des livres. C'est la science secrète de la mer. Bleu, vert, gris, blanc ou noir, calme, agité ou moutonneux. L'océan n'est jamais silencieux. Depuis toujours, je le regarde, je l'écoute. Et je le connais bien. Au début, il me racontait seulement des histoires simples, des plages calmes et des ports voisins. Mais avec les années, il devint plus amical et parla de nouveaux sujets. Des sujets plus étranges et plus lointains dans l'espace et le temps. Parfois, au crépuscule, les vapeurs grises de l'horizon se sont entrouvertes pour me faire découvrir ce qui se trouvait au-delà du monde réel. Et parfois, la nuit, les eaux profondes de la mer sont devenues claires et brillantes pour me permettre d'apercevoir ce qu'il y avait dans leur profondeur. Et ces choses que j'ai regardées fréquemment m'ont donné la vision de ce qui a été et de ce qui sera comme de ce qui est. Car l'océan est plus ancien que les montagnes et chargé des souvenirs et des rêves du temps. C'est du sud que le bateau blanc avait coutume de venir quand la lune était pleine et haute dans le ciel. C'est du sud qu'il arrivait, glissant doucement et silencieusement sur la mer. Et que la mer fût agitée ou calme, que le vent fût favorable ou hostile, il voguait toujours aussi régulièrement, toute voile déployée, ses longues rangées d'avirons souquant l'eau au même rythme. Une nuit, j'aperçus sur le pont un homme barbu et vêtu d'une longue tunique, qui semblait me faire signe d'embarquer pour des rivages lointains et inconnus. Je le revis souvent ensuite, à la pleine lune, et il me faisait toujours signe. La nuit où je répondis à son appel, la lune brillait très vivement. Je traversai les flots jusqu'au bateau grâce à un pont formé de rayons lunaires. L'homme qui m'avait fait signe me souhaita la bienvenue, dans une langue mélodieuse qu'il me semblait étrangement reconnaître. Les heures qui suivirent furent emplies des chants des rameurs. Nous naviguions vers le sud mystérieux, guidés par la lueur dorée de la lune pleine. Et quand un jour, rose se leva, j'aperçus le vert rivage de contrées éloignées, claires et magnifiques, qui m'étaient inconnues. Des terrasses majestueuses parsemées d'arbres laissaient voir ça et là des toits brillants et les colonnades de temples étranges qui semblaient s'élever au-dessus de la mer. Tandis que nous approchions de la rive verte, l'homme à la barbe me parla de cette contrée, le pays de Zar, où se trouvaient réunis tous les rêves et toutes les pensées de beauté que les hommes ont eues une fois, puis ont oubliées. Quand je scrutais de nouveau les terrasses, je m'aperçus qu'il avait dit vrai, car parmi les spectacles qui s'offraient à moi, il y en avait beaucoup que j'avais déjà vus à travers les brumes, au-delà de l'horizon et dans les profondeurs phosphorescentes de l'océan. Il y avait aussi des formes et des fantaisies plus splendides que tout ce que j'avais vu auparavant. Des visions de jeunes poètes qui étaient morts avant que le monde pût apprendre ce qu'ils avaient vu et ce dont ils avaient rêvé. Et nous n'abordâmes pas aux prairies vallonnées de Zar, car il est dit que celui qui y pose les pieds ne retourne jamais plus dans son pays natal. Tandis que le bateau blanc s'éloignait sans bruit des terrasses et des temples de Zar, nous aperçûmes au loin, à l'horizon, les tours d'une grande cité. L'homme à la barbe me dit « C'est Talarion, la cité des mille merveilles. C'est là que se trouvent tous les mystères que l'homme a vainement essayé de percer. » Quand nous fûmes plus proches, je vis que cette cité était plus grande que toutes celles dont j'avais rêvé auparavant. Les tours de ses temples pénétraient le ciel, et l'on ne pouvait apercevoir leur sommet. Loin derrière l'horizon s'étendaient de sévères murs gris par-dessus lesquels on ne pouvait apercevoir que quelques toits, étranges et inquiétants, mais décorés de riches frises et de belles sculptures. Je mourais du désir d'entrer dans cette cité à la fois fascinante et repoussante, et suppliais l'homme à la barbe de me débarquer, près de l'énorme porte sculptée. À Cariel. Mais il refusa en me disant avec douceur « Nombreux sont ceux qui sont entrés dans Talarion, la cité des mille merveilles, mais aucun n'en est jamais revenu. Car là ne vivent que des démons insensés qui ont été des hommes, et les rues sont blanches des ossements de ceux qui ont élevé leur regard sur la déesse, Lati, souveraine de la ville. » Le bateau blanc passa donc devant les murs de Talarion, et suivit pendant plusieurs jours un oiseau qui volait en direction du sud, et dont le plumage brillant avait la couleur du ciel. Puis nous arrivâmes sur une aimable côte égayée de buissons fleuris de toutes nuances, et où, à perte de vue, on ne voyait que des bocages charmants et des arbres radieux dans un soleil toujours à son zénith. De bosquets qui se trouvaient hors de notre vue nous parvenaient des bribes de chants et de douces mélodies harmonieuses interrompues de rires si délicieux que, impatient, je pressais les rameurs d'aller plus vite. L'homme à la barbe ne dit pas un mot, mais m'observa tandis que nous approchions du rivage bordé de lys. Soudain, un vent soufflant par-dessus les prairies fleuries et les bois feuillus apporta une odeur qui me fit frémir. Le vent s'amplifia et l'air fut rempli de l'odeur fétide et charnelle des villes frappées par la peste et des cimetières mis à nu. Tandis que nous nous éloignions rapidement de cette côte damnée, l'homme à la barbe parla enfin et dit « Ceci est Xura, le pays des plaisirs inaccessibles. » Une fois de plus, le bateau blanc suivit l'oiseau du ciel sur des mers chaudes, caressées par des brises légères. Jour après jour, nuit après nuit, nous continuâmes à voguer et quand la lune était pleine, nous écoutions le chant des rameurs, mélodieux comme cette nuit lointaine où nous avions quitté mon pays natal. Par un beau clair de lune, nous jetâmes l'ancre dans le port de Sona-Nil, gardé par des promontoires de cristaux jumeaux qui s'élèvent de la mer et se rejoignent pour former une arche resplendissante. C'est le pays de l'imagination. Nous parvînmes au rivage verdoyant sur un pont doré formé par des rayons de lune. Au pays de Sona-Nil, il n'y a ni temps, ni espace, ni souffrance, ni mort, et je restai là pendant plusieurs éternités. Les bocages et les prairies sont verts, les fleurs éclatantes et parfumées, les rivières bleues et musicales, les fontaines claires et fraîches. Splendides et majestueux sont les temples, les palais et les cités de Sona-Nil. Cette contrée n'a pas de limite. Car après chaque spectacle de beauté apparaît un autre, encore plus beau. Dans la campagne et la splendeur des villes, le peuple heureux vit à sa guise. Tous ses habitants sont doués d'une grâce inaltérable et jouissent d'un bonheur sans nuages. Pendant les éternités que je passais là, je me promenais avec ravissement dans les jardins, où des pagodes biscornues se laissaient entrevoir à travers les bouquets d'arbustes, où les blanches allées sont bordées de délicats buissons de fleurs. Je gravis des collines du haut desquelles je pouvais contempler des panoramas d'un charme exquis, où des villes surmontées de clochers se nichent au creux des vallées verdoyantes, et où les dômes dorés des cités gigantesques miroitent sur l'horizon. Et je contemplais au clair de lune la mer scintillante, les promontoires de cristal et le port tranquille où le bateau blanc était ancré. Ce fut encore par une nuit où la lune était pleine au cours de l'année immémoriale de Tarp que j'aperçus la silhouette de l'oiseau céleste. Il me faisait signe et je fus pris du désir de repartir. Alors je parlais à l'homme à la barbe et lui confiais mon envie d'aller rendre visite à la lointaine Kathuri, qu'aucun homme n'a vue, mais que l'on croit être située au-delà des colonnes de basalte de l'ouest. C'est le pays de l'espérance, et là brillent de tout leur éclat les représentations idéales de ce que nous connaissons ailleurs, du moins le pense-t-on. Mais l'homme à la barbe me dit « Prends garde aux mers périlleuses où, croit-on, Kathuri se trouve. À Sona-Nil n'existe ni la douleur ni la mort. » Et qui peut dire ce qui se trouve au-delà des colonnes des basaltes de l'ouest. Le mois suivant, j'embarquai sur le bateau blanc et je quittai ce paisible port en compagnie du vieil homme. L'oiseau du ciel nous précédait, nous mena jusqu'aux colonnes de basaltes de l'ouest, mais cette fois-ci les rameurs n'entonnèrent pas leur doux chant sous la lune. Je rêvais souvent au pays inconnu de Kathuri, à ses bosquets, à ses splendides palais, et je me demandais quel plaisir nouveau m'attendait. « Kathuri, » me répétais-je. Et la demeure des dieux est le pays des cités d'or innombrables. Les forêts sont de santal et d'aloé, comme les bosquets parfumés de camorin, et dans les arbres les oiseaux colorés gazouillent joyeusement. Sur les montagnes vertes et fleuries s'élèvent des temples de marbre rose richement sculptés, et dans leur cour se trouvent des fontaines d'argent où jaillissent avec une musique exquise les eaux parfumées qui descendent des sources de la rivière Nargue. Et les cités de Kathuri sont ceintes de murailles d'or, et leurs rues sont aussi pavées d'or. Dans les jardins de ces cités poussent d'étranges orchidées, et on y trouve des lacs parfumés dont les lits sont de corail et d'ambre. La nuit, les rues et les jardins sont éclairés par des lanternes joyeuses, façonnées dans les carapaces à trois couleurs des tortues. Et l'on entend les douces notes d'un chanteur et d'un joueur de luth. Et toutes les maisons de Kathuri sont des palais, chacune étant construite sur un canal odorant où coulent les eaux sacrées du fleuve Nargue. Les maisons sont de marbre et de porphyre. Leurs toits sont d'un or brillant qui reflète les rayons du soleil et rehausse la splendeur des cités, tandis que les dieux pacifiques les contemplent du haut sommet des pics éloignés. Plus magnifique que les autres est le palais d'un grand monarque, Doriyeb, dont certains disent qu'il est un demi-dieu et d'autres, un dieu, tout simplement. Les hauts murs de son palais sont surmontés d'une multitude de tourelles de marbre. Dans ces vastes vestibules, de grandes foules se rassemblent et c'est là que sont accrochés les trophées des siècles. Et le toit est d'or pur, posé sur des piliers de rubis et de lapis lazuli. Et le sol du palais est de verre, sous lequel coulent les eaux illuminées de la rivière Nargue, où nagent des poissons multicolores inconnus en dehors de l'exquise Kathuri. C'est ainsi que je me représentais Kathuri. Et l'homme à la barbe m'enjoignait toujours de faire demi-tour et de retourner au rivage heureux de Sona-Nil. Car Sona-Nil est connu des hommes, tandis que nul n'a jamais vu Kathuri. Et au 31e jour de notre voyage derrière l'oiseau, nous aperçûmes les colonnes de basalte de l'ouest. Elles étaient enveloppées de brouillard pour que personne ne pût voir au-delà d'elles ou apercevoir leur sommet dont on dit qu'ils pénètrent les cieux. Et l'homme à la barbe me supplia de nouveau de faire demi-tour. Mais je ne l'écoutais pas, car au-delà du brouillard qui entourait les colonnes, je croyais entendre les notes des chanteurs et des joueurs de luth, célébrant mes louanges, moi qui avais voyagé si loin de la pleine lune et qui avais vécu au pays de l'imagination. Et c'est au son de cette mélodie que le bateau blanc s'enfonça dans la brume, entre les colonnes de basalte de l'ouest. Et lorsque la musique s'arrêta et que le brouillard se leva, ce ne fut pas le pays de Kathuri que nous aperçûmes, mais une mer agitée et indomptable qui entraîna notre esquif sans défense vers un lieu inconnu. Bientôt nos oreilles perçurent le grondement éloigné de chutes d'eau, et nous distinguâmes, sur l'horizon lointain, le jaillissement titanesque d'une cataracte monstrueuse, où tous les océans du monde aboutissent pour tomber dans le néant abyssal. Alors l'homme à la barbe me dit, tandis que les pleurs coulaient sur ses joues, « Nous avons abandonné le merveilleux pays, et nous ne le reverrons plus jamais. » Les dieux sont plus grands que les hommes et ils ont gagné. Je fermai les yeux avant le choc qui, je le savais, allait se produire, fuyant la vue de l'oiseau céleste qui agitait ses ailes bleues d'un air moqueur. Après le choc vint l'obscurité et j'entendis les hurlements d'hommes et de choses qui n'étaient pas humaines. Venus de l'est, des vents soufflèrent en tempête et me glacèrent jusqu'aux os, tandis que j'étais tapis sur la pierre humide qui avait surgi sous mes pieds. Puis entendant un autre choc, j'ouvris les yeux et je me retrouvai sur le socle du phare d'où j'étais parti. Il y avait des éternités. Dans l'obscurité qui s'étendait sous moi, on pouvait distinguer les contours imprécis d'un grand vaisseau qui s'écrasait sur les rochers cruels. Et quand je regardais au-delà, je vis que pour la première fois, depuis que mon grand-père avait assumé ses fonctions, la lumière s'était éteinte. Et plus tard dans la nuit, quand j'entrais dans la tour, je vis sur le mur un calendrier qui était resté exactement comme je l'avais laissé le jour où j'étais parti. À l'aube, je descendis de la tour et je cherchai les traces du naufrage sur les rochers. Mais tout ce que je trouvai, ce fut un étrange oiseau, mort, dont la couleur était aussi bleue que le ciel, et une rame brisée d'une blancheur plus éclatante que l'écume des vagues, ou la neige des sommets. Et depuis ce jour-là, l'océan a cessé de me raconter ses secrets. Et si, depuis, la lune a brillé maintes fois, haute et pleinement, au firmament, le bateau blanc venu du sud n'est plus jamais revenu.